France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Sa vie est un poème harmonique, l'ensemble qu'il a créé il y a 23 ans. Il ne les fait pas. Bonjour Vincent Dumestre.
Bonjour Jean-Baptiste.
Un an sans concert ou presque, et pourtant que de projets. Un nouveau festival à ciel ouvert en Normandie, ça commence mardi, on va en parler. Un nouveau disque, Lully, Cadmus et Hermione, déjà acclamé, choc du mois dans le nouveau numéro de Classica. Et puis d'autres disques et projets à venir, dont vous nous avez d'ailleurs apporté en exclusivité mondiale des petites avant-premières, des petits extraits. D'abord Vincent Dumestre, pour vous, quand les retrouvailles avec le public, avec le concert, quand tout cela a-t-il eu lieu ?
Alors avec le public, c'est vrai que ça a été comme à peu près tout le monde il y a très peu de temps. Hein. Ça fait un petit mois qu'on recommence à jouer en public. Et là, je dirais que voilà, la grande aventure reprend enfin, avec la petite différence qu'on réduit en fait la géographie, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des concerts ont quand même lieu en France. Il y a cette différence. Mais bon, c'est quand même une grande joie là en ce moment, joie pour moi et pour tous mes collègues de enfin reprendre le chemin. Des festivals, c'est quelque chose de très, très joyeux, et voilà, on essaye d'oublier tout ce qui s'est passé depuis un an.
On va oublier, mais malgré tout, je voulais qu'on aborde d'emblée, comme ça on n'y revient pas, le poème harmonique, comment a-t-il vécu, même d'un point de vue financier, administratif, depuis 15 mois, ça a tangué, ou bien les aides ont été suffisantes, parce qu'elles ont été quand même très présentes en France?
Bah, c'est vrai qu'il y a deux vitesses, hein. Il y a les artistes d'un côté qui ont énormément souffert, il y a eu le chômage dans tous les sens du terme, c'est vraiment l'attente, il y a eu des vraies dépressions parmi certaines personnes que je connais chez les artistes. Et puis il y a la vie des ensembles, et ça c'est complètement différent, c'est-à-dire que nous on a énormément travaillé, ça surprend toujours quand on demande c'était comment cette période, mais en fait c'était une période terrible de travail extrêmement intense, puisque bon, bah, il y avait toutes les créations qu'il fallait préparer, il y avait toutes les créations du moment qu'il fallait reporter, il y a eu des reports qui ont été faits plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on a des concerts qui ont été annulés, annulé une deuxième fois, etc. Et tout le travail autour de ça pour arriver effectivement, comme vous dites, à survivre. Après, on est en France, c'est-à-dire que on a des aides extraordinaires, on a vraiment un État qui a soutenu la culture de manière extrêmement forte. Et je pense que voilà, on est très chanceux quand même de sortir de cette période avec toute l'énergie qu'on peut avoir pour la reprendre.
Vous craignez l'embouteillage? Il y a plein de disques qui ont été enregistrés, qui vont sortir ces prochains mois.
Oui, c'est vrai qu'il faut être intelligent maintenant.
Dans et puis c'est report, de report, de report.
Oui, c'est ça. Il faut reconquérir aussi le public, dans le bon sens du terme. Hein. Il faut retrouver le public, il faut lui redonner goût à sortir. C'est tout bête, mais je vois, pour la musique comme pour le cinéma, on a tous tendance à avoir été beaucoup sur Netflix parce qu'on pouvait pas faire autrement. Donc, tendance aussi à aller sur les sites pour regarder des concerts. Voilà, maintenant il faut retrouver c'est les retrouvailles. Il faut bien les gérer, effectivement. On est beaucoup à avoir enregistré. On a enregistré, je crois, quatre disques, plus tous les projets qui ont été captés, etc. Donc maintenant, il faut bien gérer les sorties d'enregistrement et ramener le public au plaisir de se retrouver.
Là, c'est un disque qui est sorti déjà. Cadmus et Hermione de Lully, ça commence comme ça. L'ouverture de Cadmus et Hermione de Lully, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, notre invité ce matin, vient de paraître chez Château de Versailles Spectacle. Vincent Dumestre, une œuvre de 1673, première tragédie en musique, première tragédie lyrique de l'histoire de la musique française. C'est le rôle particulier de ou la place particulière de cette œuvre, ou c'est un raccourci? Vous avez l'air de tiquer un peu quand je dis ça.
Non, bah oui, c'est une œuvre, bon, c'est une œuvre passionnante, d'abord par le contenu, évidemment, mais aussi par l'histoire. Il y a des œuvres comme ça qui ouvrent des chemins. À Venise, Benedetto Ferrari, par exemple, a ouvert l'histoire de l'opéra populaire avec ses 26 premiers opéras. Bon, ils ont tous disparu, hélas, on ne les a pas. Donc là, on est quand même heureux et voilà, fiers d'avoir gardé la trace de cette première tragédie. Lyrique. Après, ce qu'il faut vraiment remettre dans le contexte, c'est que certes, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais en fait, c'est tout simplement, de la part de Lully, l'intelligence d'avoir synthétisé les styles, les différents styles de l'époque, d'avoir su profiter des modes aussi, d'avoir profité de la mode, par exemple, des Italiens à Paris pour reprendre les personnages comiques dans cette œuvre, ce que les Français ne connaissaient pas, sauf à travers Molière et les personnages de la Commedia. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau, d'avoir repris le style des airs de cour, par exemple, et donc d'avoir fait des sortes de miniatures dans cet opéra, qui sont peut-être les plus beaux moments, les grandes masses chorale, mais qui existait déjà dans les ballets de cour. On avait parfois des chœurs qu'on n'imagine pas aujourd'hui, de 150, 200, 300 personnes pour chanter des airs de cour, par exemple. Donc ça, on savait faire. La seule chose qu'on ne savait pas faire, et c'est vraiment son invention, c'est le récitatif. Et c'est là où il a été génial, avec la fameuse La Chambellée, qui était une actrice, Marie de Chambellée, qui, a travaillé avec Lully, et comme on le dit aussi, il a mis les tons sur le texte, c'est-à-dire qu'il a mis en musique, en harmonie, la manière de déclamer de l'époque. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, dans l'écriture d'un récitatif, on entend ce qui a probablement été la déclamation baroque, qui était extrêmement chantée, avec la sensation de la quinte, de l'octave, etc. Et ça, c'est, s'il y a un génie, je dirais, il est là.
Et puis c'est du grand spectacle, on croise un dragon, un géant transformé en pierre avec des machineries. C'était aussi toute cette mise en œuvre à l'époque du film fantastique Avant l'heure. Ça se traduit comment musicalement, Vincent Dumestre, par Lully, cette dimension-là?
Oui, en fait ça aussi il l'a repris. C'est le théâtre de Corneille, par exemple, utilisait les machineries, faisait appel au grand, celui qu'on appelait le sorcier, c'était Torelli, qui venait d'Italie. Et Evigarani aussi, tous ces gens qui ont été amenés par Mazarin en France. Ça ensuite c'est fabuleux pour un musicien, mais ça va rester pendant toute l'histoire de la tragédie lyrique, c'est-à-dire la gestion en fait des moments amoureux, des moments dramatiques, des moments effervescents, des moments. Donc et Cadmus Hermione en est plein, c'est-à-dire qu'il a très bien géré effectivement acte par acte et scène par scène le dragon. Le sacrifice, donc ensuite en utilisant, comme on le disait, ces grandes masses chorales, la beauté aussi de l'orchestre à cinq parties, l'orchestre français qu'il a, alors non pas inventé, mais qu'il a construit, qu'il a dompté, on pourrait dire, parce qu'en fait c'est ça, avant lui c'était plus des confréries, et on dit que l'orchestre n'était pas vraiment formé, donc lui a vraiment travaillé sur la, comment dire, la précision de l'orchestre. Donc tout ça se retrouve dans cette œuvre avec beaucoup de force, mais encore une fois, je trouve que les plus beaux moments sont ceux qui pourraient rappeler même Monteverdi dans ces madrigaux, ou ces les moments de récit, des choses très très simples qui se rapprochent aussi de l'air de cour finalement.
Cadmus et Hermione de Lully vient de paraître chez Château de Versailles Spectacle, que vous aviez déjà donné d'ailleurs sur scène il y a une grosse dizaine d'années, en 2008 à l'Opéra Comique, là qui est enregistré, mais qui est très peu donné et très peu enregistré. J'ai regardé, j'ai rien trouvé.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ni enregistré, ni vraiment très donné, mais finalement, tous les opéras de Lully, les opéras de Lully ont peu de présence sur scène. Armide est connu, Attis a eu aussi son heure de gloire. Cadmus Hermione, effectivement, on en a donné 25 représentations hein, pendant 5 ans. Mais ça, c'est la force de l'habitude, je dirais. Et puis la difficulté aussi pour les directeurs de théâtre d'oser mettre à leur répertoire des œuvres baroques. Aujourd'hui, on tourne entre guillemets quand même beaucoup sur les mêmes ouvrages finalement dans le monde entier. Il y a des Didon Aîné, il y a des Couronnements de Popée, mais finalement c'est le spectre serait réduit. Donc c'est vrai, moi j'encourage toujours les directeurs de théâtre à ouvrir parce que le public il est très curieux, il a très envie de découvrir de nouvelles œuvres et c'est vrai, Lully est très apprécié comme une grande figure du baroque français.
Donc il faut oser Lully.
Il faut oser Cadmus Hermione, il faut oser Lully, oui.
Un extrait du prologue de Cadmus et Hermione avec la voix de Nicolas Scott, le chœur à Edesse, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Le disque vient de sortir. Vincent Dumestre est avec nous en studio ce matin avec ces amours contrariés de Cadmus et Hermione d'après les Métamorphoses d'Ovide. Mais tout va bien, l'amour triomphe. Un petit mot, peut-être, on n'a pas du tout parlé des chanteurs. Vous l'aviez donné en 2008. Là, c'est aussi une distribution éclatante à Del Charvet. On l'avait reçu le mois dernier, on avait écouté déjà un extrait, Lisandro Abadi et Vazaïchik.
Et Thomas Dolier en Cadmus. Oui. Bah ça c'était la demande de Laurent Brunner qui ouvrant sa collection a envie aussi d'avoir des titres nouveaux et puis de retrouver une autre équipe et c'est vrai que ça a été un très grand plaisir de travailler avec Thomas Dolier qui campe un Cadmus avec une grande profondeur et une puissance vocale, Adèle avec laquelle j'avais déjà fait plusieurs concerts et qui excelle vraiment dans plein de répertoires qui est extraordinaire, je trouve, hein, dans la théâtralité de Lully. Eva également, Eva Zelchik, on fait des concerts avec elle depuis très très longtemps et c'est vraiment une figure reconnue du 17e. C'est quelqu'un aussi qui est qui est couteau suisse, on pourrait dire, parce qu'en fait elle est extraordinaire. Elle travaille sur le répertoire 19e avec vraiment brillamment et en même temps elle est capable de faire de la musique médiévale en resserrant la voix. Avec un timbre assez blanc, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est un timbre très adapté, je trouve, à la musique ancienne. Donc non, c'est un plaisir vraiment d'avoir cette nouvelle équipe.
Lully sur ce disque qui vient de paraître chez Château de Versailles Spectacle. Lully aussi au programme d'un nouveau festival à ciel ouvert. Ce sera le 10 juillet. Le festival, lui, il démarre mardi à ciel ouvert en Normandie, au domaine du champ de bataille. Vincent Dumestre, comment est née l'idée de ce rendez-vous? Un nouveau festival, un de plus?
Alors, bah, y a toujours plusieurs points de départ à la genèse d'un projet complètement dingue comme celui-là. D'abord, il y a eu la rencontre avec Jacques Garcia, qui est le propriétaire
décorateur
de ce château, qui est un très grand décorateur et reconnu mondialement et qui depuis plus de 20 ans a acquis ce lieu et le restaure pour en faire un haut lieu, je dirais, du patrimoine baroque français. C'est un château qui date du 17e siècle, qui a été construit par Créqui, qui était un frondeur, donc qui avait été exilé par Mazarin. Et voilà, moi j'ai pu visiter ce château en compagnie de Jacques Garcia, qui me l'a présenté dans tous ses moindres recoins. Et c'est vrai que je suis complètement tombé amoureux de cet endroit qui est assez unique et qui correspond complètement à mon ADN 17e-iste de musicien. Et puis d'un autre côté, l'autre partie de l'histoire, c'est le confinement, c'est-à-dire que pendant premier confinement, il y a eu toute cette période où il a fallu redémarrer les choses, retravailler, décaler, comme on se disait, reporter, etc. Et puis il y a le deuxième confinement que j'ai trouvé encore plus dur parce que l'attente, on espérait reprendre et puis finalement c'est reparti. Et donc je pense que c'était vers le mois de novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Je me disais qu'il fallait absolument reprendre les rênes des choses, il fallait redynamiser, il fallait ne pas attendre que les robinets se réouvrent et partir avec de l'énergie dans des projets. Et en tant que Normand, avec l'ensemble Marmonique, qu'on est donc en résidence en Normandie aussi, faire ce qu'on pouvait faire pour la région. Et donc j'ai pensé à ça, c'est-à-dire j'ai pensé que la musique pouvait être magnifique dans ce lieu et qu'un festival à ciel ouvert pourrait justement être idéal à une période où, encore il y a quelques mois, on ne savait pas si on pourrait même jouer dans les salles ou hors salles. Donc c'est la genèse, c'était ces deux éléments.
Donc on est en Normandie, dans l'Eure précisément, et du plein air entièrement?
Oui, parce que je crois que c'est le plus grand jardin privé d'Europe, et avec toute une partie évidemment complètement baroque, avec une grande cascade, des jardins à la française, mais plein d'autres choses. C'est-à-dire que Jacques est quelqu'un de très inventif et il a créé ce qu'il appelle le plan d'eau de l'Eda, qui est une sorte de petit lac au-dessus duquel surplombé par un temple romain, serti de pierres précieuses. Enfin, on est absolument à Rome, à cet endroit-là. Il y a plein d'endroits différents dans ce jardin et qui, finalement, sont vraiment un théâtre vivant. Et donc, il y a peu à faire, finalement. Simplement, il déposait la musique. Il y a notamment un théâtre de verdure, un théâtre antique, avec des colonnes syriennes du 4e siècle. C'est très, très impressionnant, très beau. Tout est fait pour la musique. Et finalement, la musique n'y a quasiment pas vécu, n'y a pas été invitée, ou presque. Donc, on a construit ce projet de cette manière-là, en se disant, voilà, il faut mettre en adéquation le lieu et le répertoire qu'on adore.
Première édition d'À ciel ouvert au domaine du champ de bataille. Dans l'Eure, c'est à quoi, 1h30 de Paris et à quoi, 40 minutes de Rouen à peu près.
Voilà.
Du 6 au 11 juillet, donc c'est assez ramassé sur 5 jours. On se retrouve dans un instant. Vous nous avez apporté ceci. un extrait d'Unisi Dominus de Vivaldi. C'est un disque qui sortira cet automne chez Alpha Classics, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre avec nous ce matin, et la voix ici d'Eva Zaïsik. C'est votre premier Vivaldi, si je ne m'abuse.
Oui, c'est le premier Vivaldi. Et ça, d'ailleurs, pas seulement Vivaldi, c'est intéressant. C'est que on a retrouvé des lodes populaires qui étaient des pièces chantées par des confréries, en général, en procession pour aller à l'église. Et du coup, qui sont un répertoire extraordinaire, absolument méconnu, puisque ces lodes, il y en a des centaines, des milliers. Finalement, on ne sait pas à quel type d'œuvres les affecter ou les connecter. Et ces œuvres qui datent pour certaines même début du XVIIe siècle, mais qui ont perduré, parce qu'en fait aujourd'hui on a une image éditoriale d'une époque, c'est-à-dire on pense que ce qui était joué, c'est ce qu'aujourd'hui dont on a trace, c'est-à-dire l'édition. Mais en fait, à l'époque, il y a une image photographique qui est bien bien différente, c'est-à-dire que la musique, Bach jouait du Palestrina, transcrivait des œuvres du XVIIe, et au début du XVIIIe, on joue la musique du XVIIe siècle, et notamment les musiques populaires qui en plus sont plus archaïques, donc ont perduré. Donc on a retrouvé ces lodes et on a fait un disque autour d'Unisi Dominus, d'une fête dans laquelle spirituelle dans laquelle il a été donné à l'hôpital et la Pietà, avec des femmes, donc avec une chanteuse, non pas un chanteur, parce que c'est habitude aujourd'hui de le faire par des voix masculines. Mais ça a été pensé pour une voix de femme, et entouré de ces très très belles lodes spirituelles qui étaient données à l'époque.
Donc c'est un disque qui paraîtra chez Alpha Classics. Vincent Dumestre, vous venez de parler d'édition. Vous voilà éditeur, dites donc. C'est les éditions harmoniques qui naissent. Pourquoi cette nouvelle casquette? De quoi s'agit-il en quelques mots?
C'est très très pragmatique. C'est en fait depuis des années, depuis 20 ans qu'on fait des enregistrements. On a régulièrement des messages qui nous demandent où on peut trouver les partitions. Et en fait, très souvent, on ne peut pas vraiment trouver les partitions, puisqu'en fait, ce sont des manuscrits qui ne sont absolument pas édités dans le commerce. Et donc, je me suis dit qu'il fallait répondre à ces attentes-là d'une manière un peu formelle, et formalisée en tout cas. Mais j'avais pas envie de le faire sous la forme d'un PDF envoyé, parce que je trouve ça un peu triste. Et j'avais envie de renouer avec la qualité et la beauté, finalement, de l'objet éditorial. Et puis, c'est par goût, par plaisir. Et puis, c'est ludique aussi. C'est-à-dire que je me suis... ça a été notamment une des occupations du confinement, de m'amuser à retrouver la typographie du XVIIe, les fleurons du XVIIe siècle, le papier vénitien, le papier marbré. J'en ai trouvé un par quelqu'un qui fait encore ce type de papier marbré, qui date de 1640. Donc l'idée, c'était aussi de faire un très très bel objet qu'on puisse offrir, qu'on puisse donner. Mais d'abord, c'est pour le public, pour les amateurs, pour des chœurs, pour les musiciens qui souhaitent avoir des partitions qui ne sont pas éditées aujourd'hui.
Le goût du beau et le goût du beau, visiblement, à ciel ouvert, au domaine du champ de bataille à partir de mardi. Ce nouveau festival que vous venez de créer avec ce théâtre de verdure, ces différents lieux, ces petites jauges, au programme notamment le 9 juillet, Coronis. De quoi s'agit-il, Coronis? Là, on part en Espagne.
Oui. En fait, la thématique de ce festival, c'est la revanche de Mazarin. Hein, Mazarin, le grand.
C'est un peu ironique parce que tout à l'heure vous disiez que le château a été.
Exactement. Bah oui, parce qu'en fait, Créqui s'est construit un château absolument sublime.
Un frondeur. Exilé.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé intéressant de faire parler la figure de Mazarin, qui a été si importante en France politiquement, hein, qui a signé le traité des Pyrénées, qui a apporté la paix quand même entre Habsbourg et Bourbon pendant quelques temps, mais surtout dans les arts, qui a importé la musique italienne en France. C'est principalement ça qui a créé l'Académie des Beaux-Arts, vraiment le personnage de l'art politique artistique en France. Et du coup, cette revanche de Mazarin, c'est les plusieurs facettes qu'il pouvait avoir à la musique italienne, la musique espagnole, parce qu'il a vécu à Madrid, et puis bien sûr son apport à la musique française à travers Lully. Donc on retrouve dans les bosquets, on retrouve au Grand Théâtre de Verdure cette Coronis qu'on a donnée avant le confinement, hein, qui est un opéra qu'on donnera au Théâtre de Verdure, opéra en version concert et grand concert aussi le lendemain, Lully.
Et ce sera donc le 9 juillet pour ce concert d'ouverture Coronis de Sébastien Duron.
Duron,
Duron.
Ouais, voilà, ouais, vous étiez presque.
De Coronis de Sébastien Duron, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Ça aussi, Vincent, c'est une petite avant-première, ça paraîtra prochainement.
Oui, ça paraîtra pour Alpha Classique et c'était la superbe soprano Anna Quintanche.
Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Musique. Rendez-vous dès mardi pour ce nouveau festival à ciel ouvert en Normandie, dans l'Eure, à Sainte-Opportune-du-Bosc exactement, pour découvrir ces jardins et découvrir cette musique. Vous serez également en juillet à Montpellier au Festival Radio France Montpellier-Occitanie pour une grande semaine autour des
Leçons de ténèbres.
Leçons de ténèbres.
Française.
Française. Et puis le Nisi Dominus, on l'entendra dans le Jura en août et en octobre. Demain, notre invité pour clore la saison sera une icône. Isabella Rossellini sera avec nous. Merci à Xavier Atto, à Swad Bougorsa, à Marion Guillemet, à Lara Castiglione, à Margot Müller et à Taïsia Froidure. La réponse à notre jeu, nous écoutions il y a une heure un chant d'amour, un Liebeslied de Robert Schumann, transcrit par Franz Liszt.
À réécouter sur francemusique.fr.